Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité speedy, c'est Alcide Ponga, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Et puis je m'excuse pour ma voix enrouée.
Voilà, un petit problème de voix. Merci d'être venu, malgré les circonstances. Et merci d'avoir accepté cette invitation alors que vous êtes vraiment sur tous les fronts ces dernières semaines. On va parler du sommet du Forum des îles du Pacifique qui s'est réuni à Honiara. Vous y participiez, mais aussi de vos fonctions de président du gouvernement et puis de votre rôle comme signataire de l'accord de Bougival. Alors d'abord, c'était quoi l'objectif de la participation de la Nouvelle-Calédonie à ce 54e sommet du Forum des îles du Pacifique à Honiara? Comment la Calédonie est considérée aujourd'hui par les États du Pacifique?
Alors écoutez Elisabeth, la Nouvelle-Calédonie est au FIB depuis 2016. Je crois que c'est depuis le gouvernement de M. Germain. Et donc la Calédonie, chaque année, est invitée à participer au Forum des îles du Pacifique qui rassemble l'ensemble des États, micro-États du Pacifique, peu importe un peu leur statut. Vous avez des États qui sont indépendants à part entière, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous avez des États qui sont en indépendance association, comme les îles Cook. Vous avez des territoires comme la Nouvelle-Calédonie et Tahiti notamment, qui eux ne sont pas indépendants, mais sont des territoires du Pacifique, qui y sont aussi parce qu'on est dans le Pacifique. Donc l'objet de ce forum des îles du Pacifique, qui porte très bien son nom, c'est de traiter les questions qui sont liées aux enjeux, aux différents enjeux qui peuvent toucher et intéresser les responsables des territoires et des États insulaires du Pacifique.
18 membres dans ce forum. Cette fois-ci, les partenaires de dialogue, comme on les appelle, la France, les États-Unis, la Chine, n'ont pas été invités au forum. Vous l'avez regretté? Ça change quelque chose? C'est volontaire leur absence? Les pays du Pacifique n'ont pas souhaité qu'ils soient là?
Écoutez, pour être franc avec vous, je pense qu'il y avait un petit souci entre la Chine et Taïwan, qui est également partenaire depuis des années du Forum des îles du Pacifique. Donc le FIP, pour ne pas avoir à faire le choix, a préféré demander aux partenaires habituels, des partenaires qui financent beaucoup d'opérations dans le Pacifique, hein, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, de la protection de l'environnement, etc., etc., et qui sont aussi responsables de certains domaines, notamment dans le nucléaire, par rapport à ce qui s'est passé aux îles Marshall, à Tahiti, etc., etc. Et donc ils n'étaient pas là. Ça a été un choix de la présidence du FIP, mais là, leur cas a été discuté pendant le forum et il doit y avoir un travail pour la définition exacte des partenaires. Quels sont les partenaires de premier rang, deuxième rang, troisième rang, etc.
Et quel est leur rôle? Et justement, la Chine, est-ce qu'on en parle au Forum du Pacifique? On connaît ses intentions, sa volonté d'ingérence dans un certain nombre de pays de la zone. Est-ce que c'est un sujet dont débattent entre eux les pays du Forum?
Oui, bien sûr. Il y a le sujet de la Chine et il y a le sujet de Taïwan aussi. Hein. Je veux dire, faut pas oublier parce que voilà, vous avez des États qui travaillent très bien avec la Chine, notamment le cas des îles Salomon, et vous avez d'autres États qui travaillent pour leur compte, eux, plus avec Taïwan. Donc oui, il y a eu des débats pendant la retraite, notamment, hein, sur ces questions-là. Je pense que les territoires du Pacifique ne sont pas fermés aujourd'hui à travailler avec tel ou tel État. Moi, ce que j'ai pu défendre à la retraite, c'est que il faut que nos priorités dans le Pacifique soient décidées par nous. Qu'après, on ait des partenaires qui financent telle ou telle opération, etc., etc. Ça, c'est autre chose. Mais je parle bien de tout ce que le FIP discute, parce qu'après, vous avez des États qui sont indépendants. Donc, c'est eux qui décident avec qui ils travaillent. C'est pas la Nouvelle-Calédonie qui va dire aux îles Cook ou aux îles Salomon, non, on travaille pas avec la Chine, on travaille avec un autre, quoi. Je veux dire, c'est chacun qui est indépendant et chacun qui décide avec qui il fait les choses. Mais dans le cadre du FIP, c'était plutôt la façon dont on travaille avec eux pour financer notamment des opérations dans le Pacifique.
Alors, vous-même, Alcide Ponga, vous êtes intervenu devant le sommet. Dans votre discours, vous avez notamment évoqué le compromis ou l'accord de Bougival. Comment vous l'avez présenté à vos interlocuteurs? Puis on a envie de savoir comment ils l'ont reçu et ce qu'ils pensent de cet accord.
Mais avant de parler de Bougival, Elisabeth, nous avons signé une déclaration commune de l'océan Pacifique, un océan de paix. Voilà, donc on l'a signé ensemble là-bas. C'est un programme qui avait été porté par le Premier ministre fidjien et qui est supporté par l'ensemble des membres, on va dire, du FIP, que le Pacifique reste un océan de paix. Compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde, compte tenu des conflits et des tensions qu'il y a entre la Chine et Taïwan, compte tenu, les grandes concurrences entre les États-Unis et la Chine, notamment dans le Pacifique, cette déclaration, elle a été renouvelée, je vais dire. Et donc, c'était facile pour moi d'amener mon point de vue sur la question de Bougival, parce que je considère que ce qui a été signé et validé à Bougival, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est un chemin de paix. Et donc, ça a été accueilli en tant que tel. Ça a été accueilli en tant que tel et ça a été noté dans le communiqué de sortie du 54e Forum des îles du Pacifique, comme quoi que les membres du FIP avaient pris acte de Bougival et surtout prônent la discussion, le dialogue et le chemin de paix.
C'était pas forcément évident parce que on sait que traditionnellement les pays du forum sont plutôt proches ou entendent plus volontiers le FLNKS. Le FLNKS qui était présent, il y avait une délégation également qui était à ce forum. Ils ont pu aussi s'exprimer et parler de leur vision de Bougival.
Non, je pense que le représentant, c'est un représentant du FLNKS qui était, qui a été envoyé par le FLNKS via la MSG, la ligne Mélanésie pour participer au FIP, mais il ne pouvait pas s'exprimer. Il ne pouvait pas s'exprimer, c'était que les représentants d'État qui s'exprimaient. Je pense par contre qu'il a eu, je suis sûr, il a eu des discussions en off avec tout le monde, mais je reviens sur les éléments d'information que j'ai partagés avec les chefs d'État là-bas. Il faut prôner la paix, il faut appeler les gens à revenir au dialogue. Et c'est un discours qui est accueilli de façon très très favorable au sein du forum.
Vous êtes convaincu qu'une voie commune est encore possible entre... Vous avez parlé des deux légitimités qui existent en Nouvelle-Calédonie. Après 30 ans de dialogue, de référendum, vous avez dit on a tout essayé. Vous croyez qu'aujourd'hui encore on peut trouver une voie commune et que ça peut être cette voie de Bougival?
Au-delà de la voie commune, Elisabeth, je pense et je crois fermement que les Calédoniens peuvent vivre ensemble avec leurs spécificités. Les Calédoniens peuvent vivre ensemble avec leurs spécificités. On ne va pas demander aux Wallisiens de vivre comme les Javanais, on ne va pas demander aux Calédoniens de vivre comme les Kanaks, on ne va pas demander aux Kanaks de vivre comme les Vietnamiens, même si on aime bien manger les nems et les bami et tout ça. Mais au-delà du destin commun, pour moi, c'est une destinée commune vers laquelle on va. Et c'est la façon dont on doit vivre ensemble. Mais j'ai envie de dire aussi que on est peut-être en train d'essayer de réinventer quelque chose que les anciens, ils ont fait déjà à l'époque. Parce que les vieux, ils vivaient ensemble. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Chacun avec sa spécificité, sa coutume, sa culture, qu'il faut qu'on respecte. Il n'y a pas un qui est plus que l'autre. On respecte. On respecte les uns et les autres avec leurs traditions, avec leurs coutumes, avec leurs histoires, parce qu'on a tous des histoires différentes ici en Nouvelle-Calédonie, que ce soit les Kanaks, que ce soit les Calédoniens, que ce soit les Wallisiens, que ce soit... Tout le monde a une histoire différente ici en Calédonie. Et si on arrive à se respecter, on peut, au-delà du destin commun, on peut avoir une destinée commune et vivre ensemble.
Pour rester encore un peu à Honiara, vous nous parliez de la déclaration finale des leaders qui là faisait allusion effectivement à Bougival et apparemment en y voyant un chemin de paix. Il y a eu également une mission du Forum qui est venue en Nouvelle-Calédonie, c'était en octobre dernier, observer un peu comment les choses se passaient ici. Son rapport n'a pas été rendu public et on sait que ça interpelle un peu. Pourquoi est-ce que ce rapport n'a pas été publié ?
Il y a le rapport, il a été fait effectivement l'année dernière. Hein. D'ailleurs, moi, j'avais été auditionné. C'était Louis Mapou qui était président du gouvernement. Moi, j'avais été auditionné au titre de représentant du groupe politique du Congrès. Et donc, on avait échangé avec la Troïka. La Troïka, c'est la présidence du FIP. Ce rapport, il n'est pas sorti parce qu'il y a des points des petits points de divergence entre notamment les membres du FIP et moi-même, en tant que président aujourd'hui. Et également, je sais que l'État a fait aussi des petites observations. Je prends un exemple. Dans ce rapport, il est noté à un moment donné qu'il serait bien qu'une commission internationale vienne analyser ce qui se passe en Calédonie, etc., etc. J'ai volontairement, aux îles Salomon, dit à mes collègues, je leur ai demandé, de façon solennelle, de respecter l'ensemble des Calédoniens. Et que, compte tenu de ce qui s'était passé entre 2024 et tout le cheminement des discussions qu'il y a eu pour arriver à Bougival, où on s'est parlé, et je rappelle que Bougival, c'est les représentants du FLNKS, les représentants de l'UNI, les représentants du Rassemblement et des Loyalistes qui commencent à parler. C'est eux qui tracent la ligne de Bougival. Il n'y avait pas l'État qui était avec eux. Et donc, on ne va quand même pas demander à nos collègues de la communauté internationale de venir gérer nos affaires. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est noté dans ce rapport éventuellement une mission internationale du FIP, ce à quoi moi j'ai répondu, non, il faut respecter les Calédoniens, ils ont des soucis, ils ont des problèmes, etc. et tout, mais ils ne sont pas en guerre en Calédonie. Ils ne sont pas en guerre. Ce n'est pas ce qui s'est passé aux îles Salomon de 1998 à 2003, où là, il y a eu une commission internationale, Australie, Nouvelle-Zélande et l'ensemble des membres qui sont venus pour aider et accompagner les Salomonais à sortir de cette crise parce qu'ils étaient en guerre. Ici, on n'est pas en guerre.
Et vous avez entendu, vous avez le sentiment, ils vont gommer cette partie de leur rapport et le rapport va finalement être publié ou ils vont le mettre sous le coude ?
Ce que je sais, c'est que, bon, il n'est pas encore finalisé, mais ils ont bien entendu les messages que j'ai moi-même apportés. Je pense que l'État, via Madame Véronique Roger-Lacan, a aussi porté ce message-là pour l'État. Mais moi, je l'ai apporté pour la Nouvelle-Calédonie et pour les Calédoniens. Et je pense que ça a été entendu. Donc c'est un peu compliqué, on va dire, pour le FIP. La Troïka devait avoir encore une réunion pour discuter et savoir comment le faire. On verra comment est-ce que ce document sortira ou pas, parce que ça m'a été, on va dire, ça m'a été dit à un moment donné que le document restera peut-être en interne au FIP.
Vous êtes bien reçu à Wonira ou au Forum des îles, Alcide Ponga. Ils vous connaissent, les dirigeants de la région, ils savent vos spécificités. Ils vous écoutent, ils vous entendent, votre message passe.
Vous savez, Elisabeth, je suis parti avec une certaine appréhension là-bas. Pour deux raisons. La première, déjà, c'est comme vous le dites, je pense que les non-indépendantistes n'ont jamais vraiment fait attention à cette organisation. Et donc on a laissé de côté, puis on a laissé la place au FLNKS, aux indépendantistes de façon générale, développer un discours et une vision là-dedans. La deuxième chose, c'est que quand on y va, ben vous savez pas quoi, on parle qu'en anglais. Il n'y a pas de French speaking.
Mais vous parlez couramment anglais.
Bon, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est difficile de faire des réunions.
C'est pas votre langue maternelle, mais vous parlez très très bien anglais.
Oui, oui, je m'exprime en anglais. J'arrive à me faire comprendre, mais c'est très 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 compliqué de suivre des réunions sur plusieurs thématiques en anglais. Donc j'avais ces deux appréhensions quand je suis arrivé. Et je dois vous avouer que, au-delà de mon étiquette politique, au-delà de mes convictions politiques, qui, à mon avis, sont très, très respectées par les membres du FIP, je pense aussi que le fait que je sois mélanésien marque quelque chose auprès de ces différents responsables d'État qui sont polynésiens, qui sont, quand je dis polynésiens, vous avez des Tuvalu, vous avez James Ilkouk, vous avez Fidji qui sont métissés, vous avez des Mélanésiens comme les Salomonais, les Papou-New-Guinée. Je vais vous dire, au final, je me suis senti un peu comme un poisson dans l'eau au FIP. Parce que aussi, on parle de vrais problèmes. On parle du premier risque qui est celui du changement climatique. Alors peut-être qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, on va dire c'est les gens de la tribu de Mou, les gens de Touo, ou les gens qui habitent en bord de mer qui sont plus inquiétés puis qui s'inquiètent plus de ça. Mais vous savez, quand vous avez des pays qui sont construits sur juste un filet de sable, ben, C'est des pays qui ne savent pas si d'ici 40 ans, 50 ans, ils continueront à exister.
Le dernier président des Tuvalu s'inquiétait beaucoup de la disparition possible de son pays.
Tout à fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en étant arrivé dans ce forum avec ces deux appréhensions, quand j'ai vu les sujets, quand on a abordé les différents sujets sur l'éducation, sur le développement économique, sur la façon de développer notre continent pacifique qui, au final, on a transformé l'océan en disant « mais c'est pas un océan, c'est un continent », ben, je vais vous dire, mes appréhensions sont parties tout seules, quoi.
Pour revenir à Bougival, vous nous en parliez, vous dites ce que vous avez dit un peu devant le forum et comment vous le ressentez. On est obligé de parler aussi du FLNKS qui a rejeté cet accord après que sa délégation l'ait signé sur place. Comment vous interprétez cette attitude du FLNKS ? Est-ce que vous pensez que des discussions sont encore possibles avec eux, que vous pouvez les ramener autour de la table pour essayer de trouver un compromis global, ou que vraiment c'est une attitude déterminée chez eux de refuser tout accord ?
Écoutez, je vais pas penser à la tête, enfin à la place où je ne vais pas dans la tête des membres nouvellement nommés pour porter le discours du FLNKS. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a eu un processus qui a été validé par les responsables qui étaient là à l'époque. Et c'est pas un processus qui a été discuté comme ça, c'est un processus qui a été discuté pendant plus de pas loin de 10 jours. Discuté, étayé, écrit, réécrit, avec des avancées, des reculés, etc., etc. Pour arriver à la fin, en se disant, et on se l'est tous dit, ce papier ne plaira à personne. On se l'est tous dit, ce papier ne plaira à personne. Et c'est pour ça que, avec Victor Tutugoro, on a toujours parlé de compromis. C'est un compromis sur lequel chacun a lâché un peu. Chacun a lâché un peu, hein, chacun a mis un peu de l'eau dans son vin pour essayer d'avancer un peu. On y est arrivé. Et on a choisi ce chemin de paix dont je vous parlais précédemment, qui est pour moi aujourd'hui le seul chemin possible. Et c'est le seul chemin possible. Si on laisse les extrêmes, de tout bord que ce soit, prendre le lead, je ne sais pas ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Mais moi, je ne veux pas que les extrêmes prennent le lead. Je veux que ceux qui ont éclairé ce travail, qui ont décidé de partir sur ce compromis, qu'ils puissent le porter jusqu'au moment où on le soumettra aux Calédoniens et que les Calédoniens décident. Si les Calédoniens décident que ce n'est pas bon, on laissera la place à d'autres pour venir imaginer quelque chose d'autre. Mais aujourd'hui, on est dans une démocratie, des élus qui étaient en place en discuter, en trouver un chemin de paix, allons-y, suivons-le, proposons-le aux Calédoniens.
Et donc, vous pensez que c'est au sein même du FLNKS qu'il faut aujourd'hui qu'ils éclaircissent les choses, qu'ils disent qui sont les vrais interlocuteurs, qui peut s'engager au nom de la coalition indépendantiste, parce que là, il y a deux voies différentes, il y a ceux qui l'ont signé, qui maintenant sont complètement absents, que l'on n'entend plus, et puis il y a ceux qui aujourd'hui sont le nouveau FLNKS, comme on l'appelle, qui rejette complètement cet accord. Donc c'est à eux de clarifier les choses aujourd'hui ?
Ben je pense qu'il y a la question de la légitimité de ceux qui parlent et qui portent la voix, elle est très très importante. Hein. Je veux dire, en 2024, quand on discutait un peu, quand on avait initié un peu les choses avec les représentants de l'UC, et notamment les représentants de l'UNI, etc., etc., quand on avait avancé dans les discussions, il s'est avéré qu'au fil des discussions, il y en a qui se sont fait sanctionner. Voilà. Et d'autres sont arrivés pour prendre le fil, reprendre les fils des discussions, discuter avec nous, et mener les choses jusqu'à Bougival, et ils se feront encore sanctionner. Donc ça peut pas marcher comme ça. À un moment donné, il faut des leaders, il faut des gens qui soient là, qui soient debout, et puis on avance, et puis on assume. Surtout on avance et on assume. Moi, je suis là en tant que président du Rassemblement, avec ma collègue Virginie Ruffina, qui est chef de groupe au congrès du groupe de Rassemblement. On a assumé nos signatures et on a assumé d'avoir lâché des choses et on fait le travail d'aller l'expliquer sur le terrain. Et on ne va pas changer toutes les cinq minutes la tête des représentants du Rassemblement. Si on fait ça, ça devient l'anarchie. On n'arrive plus. Il n'y a pas d'organisation qui tienne comme ça.
Alors quand vous étiez à Honiara, il y a eu à Paris, vous l'avez su quand même, la nomination d'un nouveau Premier ministre, en l'occurrence Sébastien Lecornu, qu'on connaît bien en Nouvelle-Calédonie. Quelle est votre réaction à cette nomination et qu'est-ce que vous attendez de lui ?
Ouais, déjà, je dois dire que le fait qu'il ait été nommé assez rapidement, que le président a nommé un premier ministre assez rapidement...
En 24 heures, oui, c'était...
Voilà, c'est bien. C'est bien qu'il y ait eu un premier ministre. Par contre, là, ça prend un peu de temps là, pour nommer le gouvernement. Donc, pardon. Ça, voilà, ça atténue un peu mes propos, parce qu'il faut que le gouvernement il soit en place rapidement. Il y a des problématiques en France à traiter, et il y a notamment le sujet calédonien à prendre. Monsieur Lecornu connaît la Nouvelle-Calédonie. Il y a eu ses hauts et ses bas avec chacun ici en Nouvelle-Calédonie. Moi, ce qui m'importe aussi, c'est de savoir quel va être le ministre de l'Outre-mer qui sera nommé. Voilà, j'ai tendance à, on va dire, ne pas donner de préférence sur ces questions-là, parce que ça appartient au président de la République. Et là, pour nommer le gouvernement, ça appartient au Premier ministre sous l'égide du président de la République. Mais... je dois dire que si M. Valls était nommé ministre de l'Outre-mer pour continuer à porter le dossier jusqu'à la fin, ça ne me dérangerait pas. Quoi.
Tant qu'à faire autant quelqu'un qui connaisse bien le dossier et qui puisse continuer à porter l'accord de Bougival.
Et ils seront deux à connaître bien le dossier calédonien, ministre de l'Outre-mer et le Premier ministre.
Alors, c'est urgent, effectivement, qu'un gouvernement soit constitué pour le budget de la France, mais aussi pour les retombées économiques, notamment pour la Nouvelle-Calédonie. Vous en avez parlé, hein, à Honiara, vous avez dit que la paix durable nécessite une économie solide dans le contexte de crise sociale, de crise économique catastrophique de la Nouvelle-Calédonie. Et là, peut-être sous votre casquette de président du gouvernement, davantage, quelles sont les priorités? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Sur quoi est-ce qu'il faut avancer? Il y a déjà eu le plan de réforme qui a été voté, mais là, vous en êtes où? Et est-ce que vous avez un petit espoir que les choses se redressent?
Écoutez, on peut travailler sur les questions économiques, on peut essayer de faire des réformes, on peut faire toutes ces choses-là et tout, mais beaucoup d'acteurs économiques et de potentiels investisseurs avec qui j'échange, ils attendent surtout à ce qu'il y ait une stabilité politique. Il faut qu'on sorte de cette instabilité politique et qu'on puisse donner de la visibilité aux investisseurs. Et là, je pense que si on passait le cap d'avoir validé ce qu'on a voulu proposer et d'avoir mis en place les choses et de commencer à travailler sur la nouvelle gouvernance, parce que c'est pas parce qu'on aura validé l'accord en février que le travail il est fini. Il y a énormément de travail à faire dans le cadre de l'accord de Bougival. Ça, faut pas que les gens ils l'oublient. Je veux dire, les questions de mine, nickel, etc. et tout, c'est pas en claquant du doigt ou c'est pas en ayant voté en février que tout ça sera réglé. Les questions de loi fondamentale à mettre en place, la question de la gouvernance en Nouvelle-Calédonie et tout, c'est pas en ayant voté en février que tout ça sera réglé. Les questions de projet de société sur les questions de jeunesse, santé, etc., etc., c'est pas en ayant voté au mois de juillet que tout ça sera réglé du jour au lendemain. Donc, il y a énormément de travail à faire derrière. Mais par contre, si on valide le process et le principe, ça nous donne derrière un certain chemin à suivre. Et là, on pourra mettre les choses et travailler. Et quand on est en stabilité politique, quand on a une clairvoyance devant nous sur l'avenir, qu'il n'y a pas d'échéance, renouvelle l'échéance, est-ce qu'on va se foutre dessus encore avec les échéances référendaires, etc., etc. Quand il n'y a pas tout ça, là, vous avez les acteurs économiques qui sont en confiance et qui viennent et qui se disent « Ok, je vais investir ». À partir de là, on travaille sur ces différents secteurs. Je parlais de la mine, de la métallurgie tout à l'heure. Moi, je suis persuadé que dès que c'est stabilisé, dès que les choses sont posées, ça va repartir. Mais pas que. Il y aura d'autres secteurs où les investisseurs viendront réinvestir.
Alors concrètement, l'État a quand même annoncé le versement de la deuxième tranche du prêt AFD. On l'attendait hein, depuis un moment. À quoi ça va être destiné? Est-ce que vous l'attendiez impatiemment et qu'est-ce que vous allez en faire?
Mais écoutez, le prêt global pour l'année 2025, il était conditionné à un plan de réforme. Donc on a fait déjà un travail avec mes collègues du gouvernement pour amener au Congrès une délibération cadre sur lesquelles il y a quelques sujets à travailler. Sur Bougival, on a aussi parlé d'un pacte de refondation économique. Et donc, j'ai échangé encore en début de semaine avec Christopher Gigès. On va rentrer dans le dur sur certains sujets. Mais on ne va pas rentrer dans le dur parce qu'il va falloir toucher l'argent. Ce n'est pas ça l'objectif. On va rentrer dans le dur parce qu'il y a des choses qu'il va falloir modifier en Calédonie si on veut avoir un mode de fonctionnement qui est durable et qui est soutenable. Si on ne change pas les choses dans, on va dire, si on ne fait pas de réforme, si on n'arrive pas à trouver de solution durable et soutenable pour les questions de retraite, les questions de caisse, les questions de RUAM, etc., etc. Mais vous savez pas quoi? Bon, on va se planter simplement. Je veux dire, c'est moi, je suis pas là pour faire la langue de bois. Je dis juste qu'il faut changer les choses. Vous prenez les mêmes ingrédients, la même marmite, le même four, les mêmes sauces, etc. et tout, vous refaites la même cuisine, mais vous arrivez à la même cuisine à la fin. Donc, à un moment donné, il faut changer. Il faut changer. Il y a des choses qu'il faut bouger. Il y a des choses qu'il faut... D'ailleurs, dans les programmes des uns et des autres, on essaye de faire bouger les choses. Moi, je suis en tournée dans les îles en ce moment pour parler un peu de...
On va y venir, on va y venir. Okay. un mot, donc il y a ces 26 milliards, en fait, ils vont servir à permettre que la machine tourne, quoi.
Ça veut déjà, oui. La deuxième tranche qui va arriver, il y a des discussions encore, hein. On était en visio hier soir, il y aura une visio ce soir encore avec Claire Durieux de la mission interministérielle pour bien caler les choses et pour voir un peu, définir un peu quel genre de conditions ils veulent nous rajouter là-dessus. Donc on va bien discuter parce que tout ça, ça doit être voté au gouvernement, puis ça devrait être voté au Congrès. C'est pas à tout de se mettre d'accord avec l'État, il faut que ça passe aussi sur le filtre des votes. Mais ces fonds permettent tout simplement aux collectivités calédoniennes de tenir jusqu'à la fin de l'année.
Avec une enveloppe qui est dédiée directement aux communes, vous présidez un séminaire lundi pour voir comment les choses vont s'organiser.
Ben écoutez, on va dire que c'est tombé par hasard cette décision du Premier ministre d'affecter une certaine partie de l'enveloppe aux communes et la réunion qu'on a décidée. La réunion qu'on a décidée, c'était avant ce choix-là du Premier ministre sur la question du PGE. Non, la réunion lundi, c'est le gouvernement, le président accompagné de Mme Chamorro, de M. Gambé et de M. Santa, qui voulait échanger un peu avec les communes sur des questions qui nous concernent, on va dire, de façon... qui nous concerne tous, quoi, que ce soit nous, que ce soit les communes, sur des questions de santé, sur des questions d'école, des financements des écoles privées, sur des questions également de finances, parce que M. Santa couvre le budget, et j'ai demandé au commissaire de nous accompagner pour ajouter un quatrième thème qu'on souhaitait partager avec les maires, qui est celui de la sécurité. De façon globale, etc. Et donc, on sera présent les quatre membres du gouvernement et également le haut-commissaire pour pouvoir échanger de façon très, très proche avec les maires. C'est une première, j'espère qu'il y en aura d'autres derrière pour d'autres sujets.
Alors, autre thème que, évidemment, je voulais aborder avec vous, c'est le transport aérien. Et vous disiez, vous êtes dans les îles, vous êtes allé à Marais, vous êtes allé à l'île des Pins.
Tout à fait.
Vous allez parler aux usagers, enfin à la population, des projets qui sont en cours pour notamment le déménagement d'Aircale à Tontouta. Ça se passe comment ?
Je ne vais pas que pour parler de ça, Elisabeth. J'y vais déjà parce que au début de l'année, on a voté la modification de la continuité territoriale. Donc j'ai baissé. J'ai demandé à ce qu'on baisse le nombre de coupons. Donc j'ai été expliqué aux îles pourquoi. Et j'ai été expliqué également qu'il y avait un nouveau projet de loi de pays qui devrait arriver en février-mars pour mieux cerner les choses sur la continuité pays. Donc ça, c'est une chose. Et le deuxième sujet qui est lié avec le déménagement, mais qui est surtout lié à la situation économique et financière de Air Calédonie, la société Air Calédonie, qui l'année dernière a été subventionnée à 1 milliard par le gouvernement, qui cette année aura encore des fonds pour tenir. Et on a demandé à Air Calédonie de se restructurer, de faire les choses pour pouvoir, à un moment donné, vivre tout seul. Et donc, dans les différentes, on va dire, les différentes actions qui doivent être menées par Air Calédonie et ses partenaires pour pouvoir avoir, je l'espère, une situation qui revienne à la normale, qui lui permette de tenir de façon durable sur le plan économique et financier. Dans ces différentes actions, il y en a quatre. Je vais les énumérer rapidement. Il y a cinq plutôt. Celui de la réduction des coûts que Air Calédonie a déjà travaillé dessus. Ils ont fait, par exemple, je cite par exemple, 1,2 milliard d'économies l'année dernière en se séparant de 150 personnes. Il y a également les discussions sur la vente d'un ATR. Ils en ont quatre aujourd'hui. Ils pourraient en vendre un pour avoir un peu de cash. Et donc, en vendant un avion, ça fait moins de frais également de maintenance, etc., etc. Il y a également le développement de la ligne Vanuatu qu'ils le font aujourd'hui avec Air Calais. Mais pourquoi pas développer un peu plus pour aller chercher des chiffres d'affaires pour mettre du beurre dans les épinards. Et le dernier, c'est celui de la déréduction de coûts vis-à-vis de Magenta. Pour la société, mais également pour le gouvernement un peu, parce que tout le monde s'y retrouve un peu en déménageant de Magenta à Tontouta. Donc ce sont des actions qui sont liées pour permettre à un moment donné de sauver la compagnie. C'est pas comme ça où on est arrivé et puis on décide de déménager comme ça et puis on s'en fout de tout quoi. Non, non, c'est pas ça qui se passe. Et c'est pour ça que je suis allé aux îles pour expliquer aux gens.
Et quand vous leur expliquez ça, quand vous leur dites ça, ils comprennent, ils acceptent, ils sont convaincus ou il y a beaucoup de protestations ?
Il y a beaucoup de protestations. Il y a beaucoup de protestations. Et c'est normal parce que il y a beaucoup de protestations parce qu'il y a beaucoup déjà de critiques vis-à-vis de la façon dont la société a travaillé pendant des années, des avions annulés, etc., etc. Beaucoup de critiques là-dessus. Mais moi, je suis pas là pour parler de la gestion de Air Calais. Moi, je suis là pour parler de stratégie globale pour l'aérien domestique. Mais il y a beaucoup de critiques aussi parce qu'il y a des réponses que les gens n'ont pas quand on parle de ça. Quand une personne me pose la question, mais monsieur le président, si jamais je monte à Tontouta, puis l'avion il est annulé comme ça, et puis le cousin il est parti, je vais faire comment pour redescendre à Nouméa? Mais tout ça, ce sont des questions qui sont pragmatiques et qui sont fondamentales et qui sont légitimes surtout. Et donc je leur ai dit, je suis venu vous dire qu'il y a des groupes de travail et que les gens vont être intégrés. L'ensemble des parties qui sont concernées par ce dossier doivent amener l'ensemble de leurs questions et le gouvernement, avec les parties prenantes qui piloteront le déménagement, doivent répondre à, grosso modo, 80% des questions avant qu'on opère ce déménagement. Mais, qu'on se le dise bien, c'est une opération qui est aussi et surtout vitale pour la survie de Air Calédonie.
Il y a un calendrier déjà ?
Je leur ai dit qu'il y a deux dates techniques de possibles. Enfin, deux dates possibles. La première, on peut le faire à la fin de l'année. S'il faut, techniquement, on peut le faire à la fin de l'année. Mais je suis venu les voir, je suis venu les entendre, je suis venu écouter les critiques et on va dire échanger avec eux. Et donc, pour moi, il y a une deuxième date qui est la date qui serait socialement acceptable.
Le moment où sera vraiment prêt, où toutes les vous aurez répondu à toutes les questions et
les systèmes
des solutions.
De bus, les systèmes de sécurité sur la route, si le passager il perd, etc. Et tout, voilà, il y a plein de questions qu'il faut répondre aux gens. Et c'est normal que les gens ils se posent ces questions-là. Ils viennent déjà des îles, ils arrivent ici encore, ils sont un peu plus loin que Nouméa d'habitude. Donc pour moi, ce sont des questions qui sont légitimes. À charge à nous de travailler et de trouver des réponses et de mettre des solutions en face de ces questions-là.
Ils étaient rassurés un peu après, quand vous terminez une réunion comme ça à Marais ou à l'île des Pins, ils sont un peu rassurés quand même ou...
Je ne vais pas parler à leur place, mais je vais dire que je suis content des quatre réunions que j'ai faites, une à Lifou, deux à Marais et une à l'île des Pins, hier. Et je suis satisfait de ces échanges, etc., etc. Déjà, je ne me suis pas fait courser, donc ça c'est bien. Je sais que c'est un dossier qui est chaud aux îles, et c'est bien. Et puis, je vais à Ouvéa dans les prochains jours. Et donc à partir du moment où j'aurai fait le tour pour faire cette première communication, le groupe de travail déploie et répond à l'ensemble des questions et tout. L'objectif étant qu'il faut que la date sociale d'acceptabilité que j'ai dit, il faut qu'elle soit le plus proche possible que la date technique. Et donc, il faut que tout le monde travaille, il faut que tout le monde participe, il faut qu'on y aille. Et j'ai dit à Lifou et à Marais, il ne faut pas bloquer l'aérodrome. Parce que l'aérodrome, c'est pour les gens des îles. C'est voilà. Je veux dire, moi, je suis là pour essayer de trouver une solution. Un, pour Air Calais, et deux, surtout, pour essayer de maintenir la connectivité aérienne entre les îles et la grande terre.
Beaucoup, beaucoup de travail, hein, on le voit.
Énormément de travail, Elisabeth, et c'est pas le seul sujet.
Merci, Alcide Ponga, d'être venu, malgré vos problèmes de voix et de gorge, et malgré tout ce travail. Merci d'accepter votre invitation dans ce magazine Transparence.
Merci beaucoup, Elisabeth, et puis je reviendrai pour les autres sujets, parce que j'en ai plein encore.
Pas de problème, le rendez-vous est pris. La fin de ce magazine Transparence, merci de l'avoir écouté.